When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Poulain Rafute avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans le métro, dans votre voiture et même en Charente. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Et attention, garde à vous.
Vous le savez, notre sport a bien évolué ces 25 dernières années. Ah, il est loin ce temps du monde amateur avec ses bourre-pifs, ses coups de pied dans la bouche, ses fourchettes aveuglantes et ses guerres de clochers qui se réglaient à grands coups de gouboule et à grands coups de bière et de barbecue. Ah, il est loin aussi ce temps de mes joueurs fétiches à la liquette en coton trop large et aux chaussures carrées qui ont bercé mon enfance à grands coups de plaquage cathédrale et autres raffus à la glotte. Tout ça, c'était avant et c'est ma foi pas plus mal. Les bedaines ont rétréci, les maillots aussi, tout va 10 fois plus vite, les joueurs ont évolué, les mentalités aussi. Bref, une véritable révolution. Et au milieu, acteurs principaux de nos joutes dominicales, les arbitres ont eux aussi vu leur activité se professionnaliser. Fini la clope d'avant-match et le déjeuner avec les dirigeants, avec le ballon de rouquin, plateau de fromage et Dijon au café. Aujourd'hui, ce sont devenus de vrais athlètes de haute précision qui n'ont presque pas le droit à l'erreur dans un monde où tout se voit, tout s'entend, tout se surenchérit pendant 80 minutes chaque week-end et toute la semaine sur nos chers réseaux asociaux souvent. Une chose qui ne change pas pour eux, par contre, et même avant que notre sport devienne pro, ce sont les insultes de certains supporters, mais ça, c'est universel et très français, on a du mal avec l'autorité. Ah, si une chose a changé, quand même. Avant, c'était sur le bord du terrain que les courageux, si on peut les appeler ainsi, couinaient leur désaccord à grands coups de « enculé l'arbitre !» Alors qu'aujourd'hui, à l'heure du Covid et des stades vides, leur seul lieu d'expression se trouve sur les réseaux sociaux, ces fameux. Et là, mesdames et messieurs, c'est la cour des miracles, des fautes d'orthographe et des acharnements sur cet homme sans qui, de toute façon, il n'y aurait pas de match. L'image de l'arbitre et son statut a bien changé ces 25 dernières années. Mais avant même de citer notre invité, j'entends déjà les bouches de vieilles commencer à grincer des ratiches, se souvenant d'un match perdu à cause de l'arbitre et bien sûr, depuis le début. Un arbitre fera rarement l'unanimité, que l'on soit côté vainqueur ou côté vaincu, et pourtant il fait partie du décor, du folklore, de ce théâtre de vie qu'on appelle le rugby. Laurent Cardona, mesdames et messieurs, va nous raconter comment on devient arbitre, comment vit l'homme derrière le costume d'autorité qui se doit d'être respecté de toutes et de tous pour l'intérêt supérieur de notre sport. Salut Laurent, bienvenue dans Poulain Rafute. Je suis ravi de te retrouver. On a fait connaissance il y a quelques années ensemble sur un terrain dans le sable à Marseille. Cette fois-là, je ne m'étais pas blessé. Je suis ravi de te retrouver. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah, c'est avec grand plaisir. J'ai adoré ton introduction. Vraiment.
On essaye de mettre un peu les pieds dans le plat.
Tu peux nous redire unanimité pour voir ?
À l'unanimité.
Ouais, c'était compliqué. Ouais, non.
Alors le mec quand même va me faire des réseaux, donc mais et tu sais que faire un truc sans fourcher de la ratiche, sans fourcher de la langue, là quand même, il faut de la concentration. Le mec s'arrête sur un fourchage de mots. C'est fou, hein. Comme quoi, tu vois, c'est Laurent, vrai. Tu le sais, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Pourtant, elle est
humaine. C'est vrai. On a ça tous les week-ends. On a absolument pas le droit à l'erreur. Mais attention, les bons vieux cassoulets d'avant-match existent encore dans notre sport amateur. Le sanglier, le bon sanglier, le cassoulet existe encore une heure et quart avant la rencontre. Franchement, c'est pour te mettre dans
ça, c'est génial.
Oui, mais là on va parler justement du pro et du vrai pro. D'abord, moi, la question que je voilà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient arbitre? Comment un jour tu t'es dit je vais devenir arbitre? Moi, la question que je me pose, je me dis, est-ce que le mec était premier de la classe, a pris des grandes nuquettes par les mecs un peu costauds au fond, et puis un jour il s'est dit, toi, mon grand, un jour, les mecs comme toi, je vais en faire mes PlayStation pendant 80 minutes et tu vas être au pas et je vais te régler. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou pas du tout?
Ça peut être dans les plus grands fantasmes. Mais non, moi, je suis devenu arbitre à l'âge de 19 ans. Je vais être sincère dans ce que je vais raconter. C'est vraiment ce qui s'est passé. j'en avais marre d'avoir l'impression de me faire avoir tous les week-ends par les arbitres qui venaient m'arbitrer. J'avais 19 ans, je pensais que j'avais refait le monde, que je connaissais tout sur tout et que l'injustice tombait sur moi tous les week-ends. Je jouais numéro 9 et cet arbitre avec un sifflet, avec une petite bedaine sympathique où j'avais l'impression qu'il tournait autour du rond central du terrain et qu'il n'arbitrait pas, j'en avais marre. Et plutôt que de critiquer ouvertement comme je le faisais et comme beaucoup le font aujourd'hui, je me suis dit, eh ben, passe derrière la barrière et vois toi ce que tu peux faire plutôt que de critiquer, parce que c'est tellement simple. Et c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Parce que j'avais l'ambition ou j'avais la prétention de me dire, je ferai mieux qu'eux et je vais essayer de servir le jeu et d'aller arbitrer et d'animer le jeu, quoi. Enfin, d'aider en tout cas à animer le jeu. Et c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Et à 19 ans, donc j'étais tout jeune, et jusqu'à 24 ans, j'ai joué et j'ai arbitré. Et à l'âge de 24 ans, j'ai vraiment arrêté de jouer parce que quand tu montes dans les divisions nationales, à un moment donné, il faut faire un choix parce que tu ne peux pas faire les deux. Donc, quand j'ai intégré la 3e division fédérale, j'ai arrêté de jouer et je suis devenu que arbitre et j'avais 24 ans.
Est-ce qu'il ne faut pas, Laurent, être un petit peu maso quand même pour devenir arbitre ?
Au départ, Arnaud, on veut casser la gueule à tout le monde. Le premier qui m'insulte, je saute par-dessus la barrière et je saute dessus. C'est ce qu'on se dit au tout début. On dit, moi, ça ne se passera pas comme les autres. Mais en fait, je crois qu'il faut être un petit peu maso parce qu'au final, on se met dans une bulle. Les gens critiquent l'arbitre et pas forcément l'homme. Il arrive quelques cas où ça dépasse les limites et ça attaque l'homme derrière. Ce qui a pu m'arriver au moins une fois dans ma carrière. Mais globalement, c'est le personnage qui est attaqué. Et puis, ça fait partie du folklore de notre sport. Je suis triste en ce moment. Je suis triste sur mes terrains où je n'ai pas de stade rempli de chauvins à critiquer tout ce qui bouge ou quand tu n'as pas encore mis, même pas le coup d'envoi, tu es déjà critiqué. C'est quand même formidable. Mais ces gens-là nous manquent. À Brive, à Clermont, au Stade français, à Toulon, ces gens-là me manquent quand je suis sur un terrain et j'ai hâte qu'ils reviennent.
Est-ce que tu as connu des moments difficiles dans ta carrière ? Alors, ça fait, tu as quel âge aujourd'hui ? 38, 39, 40 ?
Non, j'ai 43 ans maintenant.
Oh le yeux ! Mais je suis le plus jeune à l'écran, mesdames et messieurs, je suis le plus jeune. Non, ça va, si tu as connu des. Ben, ça fait 19 ans maintenant que tu es sur les terrains. Non, même plus que ça, parce que 19, ça fait 24 ans maintenant. 24 ans. Est-ce que tu t'es fait insulter ou agresser verbalement ou physiquement tout au long de ces années ? Tu parlais justement d'une anecdote. Est-ce que tu peux nous en parler, un moment très difficile que tu as à nous citer ? Parce qu'on ne s'imagine pas, l'arbitre, nous, on le voit une fois de plus, hein, pendant 80 minutes, on le voit s'échauffer, mais on ne s'imagine pas ce qu'il peut aussi subir. Aujourd'hui, comme on dit, il n'y a plus la publique, mais il y a aussi les joueurs, aussi les mentalités des joueurs qui ont aussi évolué et parfois un peu régressé par rapport à l'arbitre aussi, par rapport au respect de l'arbitre. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous donner par rapport à cette expérience un peu qui peut être aussi un peu traumatisante pour l'homme derrière l'arbitre ?
Mais je crois que c'est pas un secret. Hein, le souci, on va dire, que j'ai eu à l'époque avec sur le match Toulon-Grenoble avec Bernard Laporte et Mourad Boudjelal ont été un fait très marquant de ma carrière. Je ne sais pas si j'ai souffert, mais ça c'était dur. Ça a été un passage assez difficile parce que tout à l'heure, j'ai dit tant qu'on s'attaque à l'arbitre en lui-même et qu'on ne va pas chercher l'homme derrière, ce n'est pas grave. C'est le métier qui veut ça. Mais à cette époque-là, ça a passé cette barrière-là et ça s'est attaqué à l'homme directement. L'homme, la famille, les enfants, ma femme, ça a pris une dimension absolument extraordinaire. Et là, c'est le seul moment vraiment, si j'en retiens un, qui est marquant. Après, j'ai jamais eu d'agression physique. J'ai jamais eu de problème en sortie d'un stade. Je crois que les gens ont beaucoup de véhémence, mais après de là à passer la barrière de l'acte physique, je crois qu'on n'en est pas encore là. Et je rebondis juste ce que tu as dit avec les joueurs. Moi, en tout cas, je ne le sens pas sur le terrain. Les joueurs sont encore ultra respectueux. Je crois que la genèse de notre sport fait que On apprend de tout petit à l'école de rugby à respecter les arbitres. Et encore aujourd'hui, on apprend encore à nos jeunes de 5, 6 ans, 10 ans à respecter l'arbitre. Il a toujours raison. Il peut se tromper, mais il a toujours raison.
En top 14 et même en Pro D2, je voulais pas parler non pas des insultes, mais justement de la remise en question de la parole divine, je dirais, de l'arbitre qui, quand il décide quelque chose, n'a pas envie qu'on vienne lui parler dans la bouche pendant 2-3 minutes à devoir justifier sa truc. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Et on a vu des joueurs, justement, qui, pris par l'enjeu aussi, parce qu'il y a un tel enjeu aussi de victoire, de points et tout ça, on peut les comprendre, bien entendu. Mais je parlais plus de cet aspect-là.
Oui, ça peut arriver que certaines viennent discuter un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même très 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 limité.
On les entend peut-être aussi un petit peu plus, oui. Parce qu'il n'y a pas le public aussi. Oui. Il y a ça aussi, t'entends des trucs là. Si à l'époque on avait eu le Covid avec Sylvain Marconnet, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que tu aurais été obligé de couper ton micro toi-même, arbitre central. Je pense que tellement ça fusait, mais dans tous les sens.
Mais vous ne vous adressiez pas à l'arbitre.
Non, c'est vrai. Mais là, on aurait découvert l'envers du décor. Et voilà, ce qui est bien, justement, c'est que tout ce qui est dans le rugby peut rester dans le rugby, en tout cas à l'intérieur de la mêlée. Voilà.
Laurent, je voudrais revenir justement sur l'épisode que tu as évoqué. C'était donc Bernard Laporte, hein, on va revenir sur les propos hein, du manager du RCT à l'époque qui t'avait traité de pipasse. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que je crois que tu en avais discuté d'ailleurs avec Mourad Boudjelal, tu avais accepté de participer à son émission sur les antennes d'Eurosport il y a quelques temps. Et il y avait eu, finalement, ça s'était plutôt bien terminé. Il y avait eu une rencontre avec Bernard Laporte. Tu as revu Mourad Boudjelal, qui a beaucoup d'estime pour toi aujourd'hui. Il le dit assez régulièrement. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était conclu et quel rapport aujourd'hui tu as finalement avec celui qui est devenu indirectement ton patron?
En tout cas, c'est lui qui signe mes contrats de travail. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, c'est moins une plus deux, hein, puisque j'ai Franck Massiello au-dessus de moi et après, j'ai Bernard Laporte. Donc, si on veut hiérarchiser tout ça, c'est moins une plus deux. J'ai de très, très bonnes relations avec Bernard Laporte et Mourad Boudjelal. Ça a été un épisode marquant. Et quand j'ai dit que c'était marquant pour moi, ça a été marquant pour eux aussi. Et je pense qu'ils s'en souviendront toute leur carrière. Alors, en plus, on leur rappelle, et comme moi, et puis… Et en plus, je pense vraiment que ça a été un fait marquant parce que finalement, ils ont fini double champion d'Europe et de France cette année-là. De mémoire, ça, si je ne dis pas de conneries, j'espère que vous regarderez vos archives, mais il me semble que je ne me trompe pas. Et on a d'excellentes relations. Voilà, très sincèrement, on a d'excellentes relations. J'ai plaisir à monter à Marcoussis, alors plus trop maintenant, et à croiser Bernard Laporte. On a toujours un moment, il a toujours un mot, on échange, on discute, on parle de rugby, on parle de tout un tas de choses. Et voilà, c'est un épisode, voilà, c'est un épisode qui a été écrit dans le marbre, mais aujourd'hui les hommes sont passés largement au-dessus et toutes ces choses sont loin derrière nous. C'était 2014 de mémoire.
2014.
Ça fait quelques années maintenant, donc voilà, c'était un épisode qui a été, mais aujourd'hui j'ai très très bonnes relations. J'avais accepté effectivement Arnaud de venir dans l'émission de Mourad. Qu'il faisait. Voilà. Et ce jour-là, en invité, il y avait Bernard Laporte juste avant moi. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Tout à fait. Tout à fait.
Juste avant moi. Donc, on avait encore une fois échangé. Donc, vraiment, c'est un personnage. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et je trouve que, en plus, une petite parenthèse qui ne regarde que moi, je trouve que c'est un très bon président de la Fédération française de rugby en plus.
J'aimerais qu'on parle un peu de l'arbitrage vidéo. Ça fait 20 ans maintenant qu'il est installé sur les compétitions internationales, depuis 2006 dans le championnat de France. J'aimerais avoir ton avis sur cet outil qui est mis à votre disposition. Est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir cet outil qui est censé vous aider? Comment tu vis avec la vidéo? Enfin, voilà, elle a été parfois critiquée. Comment on le vit de l'intérieur?
Écoute, comme toute chose, dès que tu mets une solution pour corriger un problème ou pour améliorer quelque chose, forcément, tu crées d'autres problèmes. Et ça, ce n'est pas que pour l'arbitrage, hein, c'est pour la vie en général. Hein. Dès que tu mets une solution, tu crées des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec la vidéo. 2006, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait 15 ans. Hein, donc, et ça fait 15 ans qu'on se cherche. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et c'est ce qui se passe au foot aussi. Au foot, ils l'ont depuis bien moins de temps que nous et ils se cherchent totalement. Il y a des trucs extraordinaires qui ont été faits. Et donc, pour le rugby de l'intérieur, eh bien, on est constamment, y compris avec la World Rugby, en train de régler ces process, ce protocole vidéo pour espérer le faire du mieux possible et que la vidéo soit vraiment un outil pour aider et non pas un outil pour desservir l'arbitrage. et on change des protocoles. On a des réunions très régulières pour savoir exactement ce qu'on peut faire avec la vidéo et ce qu'on ne fait pas, parce que des fois, ben, on la surexploite à tort. Et quand on la surexploite, trois ou quatre week-ends après, on la sous-exploite. Parce qu'on se dit, on en a trop fait, 5-6 appels vidéo par match, ça fait beaucoup. Alors, j'ai regardé le match, j'ai regardé la Coupe d'Europe en général ce week-end, et sur Bordeaux le Racing, les journalistes, au bout d'un moment, ils en avaient un petit peu marre de la vidéo. Mais en même temps, je les comprends, parce qu'ils sont là pour animer une rencontre qui est difficile à animer, déjà pas beaucoup de temps de jeu, etc. Mais les équipes, elles sont là pour gagner. Un cas vidéo qui serait mal traité ou trop vite traité, et du coup on commettrait une erreur, ben, ce serait dramatique pour les équipes. Donc il y a cette balance. Est-ce qu'on est là pour faire du spectacle? Je pense qu'on a notre rôle à jouer, clairement. Il faut être tout à fait honnête. Mais on est aussi là pour donner de l'équité dans un match, entre deux équipes. Et plus la saison avance, et plus les matchs sont très importants, hein, quart de finale de Coupe d'Europe, c'est pas rien pour les équipes. Et le top 14, on va rentrer dans les derniers matchs et les phases finales. Il n'y en a pas le droit, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit en préambule, on n'a pas le droit de se tromper, et ça a des conséquences lourdes pour les clubs. Donc cette balance, elle est très, très difficile à trouver. Bordeaux et le Racing sont très contents qu'on ait passé autant de temps en vidéo, parce qu'ils ont tenté de prendre les bonnes décisions qui n'étaient pas faciles à prendre. Et certainement que le grand public s'est un petit peu ennuyé dans la rencontre.
Laurent, certains parlent de déresponsabilisation avec cet outil qui est l'arbitrage vidéo pour les arbitres. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une solution? C'est une idée hein, comme une autre que j'aimerais développer. Est-ce que plutôt que de donner la responsabilité de l'arbitre à faire appel à la vidéo, pourquoi on ne donnerait pas, c'est à laisser en ce moment dans l'hémisphère sud, le droit au capitaine, par exemple, de chaque équipe de faire appel durant un match à trois reprises à la vidéo? Et dans ces cas-là, voilà, les joueurs au moins… S'ils ont vraiment l'intime conviction qu'il y a eu une erreur, ils peuvent faire appel à la vidéo. Et dans ces cas-là, l'arbitre… Et là, on aurait le sentiment que la responsabilité, finalement, incomberait aux joueurs. Et peut-être qu'on éviterait effectivement cet abus d'arbitrage vidéo. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, très sincèrement, je suis ni pour ni contre. Toute solution bonne peut être prise, mais on est quand même là pour ça. Pour prendre des responsabilités. Ouais. On est là quand même pour décider. Et à partir du moment où… je vais te prendre l'exemple des assistants, de l'arbitre vidéo, etc. L'arbitre de centre dans nos équipes arbitrales, quand on va diriger un match, reste le patron, reste celui qui est responsable d'eux. Les collègues sont des assistants vidéo et arbitre de touche. Et quand il y a une décision à prendre, ou en tout cas s'il y a une erreur, on ne va pas avoir l'arbitre vidéo, on ne va pas avoir l'arbitre de touche, on lui dit « l'arbitre de centre s'est trompé ». Après, essayer de basculer un petit peu la responsabilité sur soit les capitaines, soit les managers, soit les coachs éventuellement qui pourraient prendre les décisions, comme ça se voit dans d'autres sports. Hein. Je crois que le football américain, c'est comme ça, de mémoire, où c'est les coachs qui ont le droit de prendre des appels vidéo. Donc, ça fonctionne chez eux. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous maintenant? Et voilà, c'est difficile pour moi de dire ça.
Bien sûr, bien sûr.
Mais
Non, mais peut-être que ça empêcherait les entraîneurs, parfois, ou même les joueurs, de réclamer la vidéo à tort et à travers. Si on leur en donnait trois jokers, entre guillemets, peut-être qu'ils ne réclameraient pas la vidéo, des fois, pour un en avant d'un millimètre.
Arnaud, trois jokers ou même deux jokers, plus les décisions de l'arbitre, il y a un moment où tu changes la donne, en fait.
Non, mais justement, l'arbitre n'aurait plus à faire appel à la vidéo, ce serait les joueurs, ce serait de leur responsabilité.
Ouais, je suis pas fan, Arnaud.
D'accord.
Mais en même temps, je ne sais pas si mon avis compte dans la prise de décision. Hein, donc, mais en tout cas,
c'est le cas au tennis, d'ailleurs.
Ouais, effectivement. Mais le rugby est un sport qui génère… sur un match, un arbitre siffle environ une quinzaine de fois, 15-20 fois dans les matchs normaux. Après, ça peut monter jusqu'à 30.
UBB Racing, par exemple.
Ouais, et il y a… si je décortique toutes les phases de jeu… Je pense qu'il y a environ entre 300 et 400 fautes sur un match. C'est-à-dire que si je décortique le match et que je prends de la minute 1 à la 80e, je te trouve entre 300 et 400 fautes. Mais 98% de ces fautes ont été décidées par l'arbitre qu'elles n'avaient pas d'influence directe sur l'équité entre les deux équipes. Et finalement, les décisions prises tournent autour de 20 coups de sifflet. Donc, c'est énorme, le delta. Et donc, ça veut dire que l'arbitre, pendant 80 minutes, il choisit de ne pas décider. Mais ne pas décider, c'est aussi une décision. Donc, Raph le sait, je prends une phase de plaquage ruck, plein des spontanés, je fais arrêt sur image, je te dis voilà, sur cette phase-là, je trouve immédiatement 3 ou 4 fautes sans aucun souci. Et le ballon sort et ça joue. Donc, si on rajoute la possibilité aux équipes d'intervenir, alors certes, tu limites cette intervention, mais clairement, ça va être difficile. Si aujourd'hui, vous pensez, vous, journaliste, quand vous commentez un match, que c'est lourd, je pense que ça va devenir encore plus lourd.
Ouais. Ah oui, là, c'est le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3. C'est-à-dire que tu te mets à midi devant ta télé et tu finis à 18h.
Show must go on.
Le Super Bowl de 4 heures de temps, on commence à 20h, on finit à minuit, et on met Shakira au milieu, et moi ça me va bien, j'adore Shakira. Donc,
voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est bien en fait, que les gens écoutent un petit peu au moins ta parole, parce que ça humanise un petit peu ce que vous pouvez vivre sur le terrain. Moi j'aimerais qu'on continue de parler de cette vidéo, parce que c'est un outil qui a vachement médiatisé aussi les arbitres aussi, et puis on a tous un égo, quoi, donc c'est... Voilà, ça peut être aussi agréable. Est-ce que c'est quelque chose de plaisant, ou est-ce qu'un arbitre finalement ne doit pas rester dans l'ombre, même si je connais ta réponse? Après, il y a les réseaux sociaux aussi. Bon, j'ai un peu taillé sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai un peu taillé les réseaux sociaux et je les taille assez souvent parce que je retrouve, comme je le disais, hein, c'est la cour des miracles. Mais il y a quelque chose de positif en termes d'image aussi. C'est quand même aussi gratifiant de voir qu'on a fait le boulot et puis aussi de se voir à l'écran. Il y a un rapport à l'écran qui est assez spécial. Comment tu le vis, toi?
Bon, moi, j'utilise les réseaux sociaux. Ça, pour ça, vous le savez tous les deux. Hein, j'utilise les réseaux sociaux parce que ça me fait rire. Et ce qui me fait rire à moi, j'essaie de faire, de trouver ça sympathique. Effectivement, on a l'impression que certains arbitres passent du temps à la musculation et on voit leur maillot ultra serré. On a vraiment l'impression que c'est des joueurs qui font partie intégrante. Il y a une question d'image. Effectivement, hein, je crois que sur un match, sur 80 minutes, sur une diffusion totale d'un match, je pense qu'il y a, un bon pourcentage qui est consacré à l'image de l'arbitre. Donc, bien évidemment que ça a des répercussions derrière, y compris pour les jeunes qui regardent les matchs. Je veux dire, de plus en plus jeunes aujourd'hui, nos gamins qui jouent à l'école de rugby veulent devenir arbitre. C'est quand même incroyable. Jérôme Garcès, c'est la finale de la Coupe du Monde. La dernière
Mon fils veut devenir monde. Arbitre. Je comprends pas.
Je veux devenir arbitre. Et j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. On a un mail unique pour tous ceux qui veulent devenir arbitre. C'est jeveuxarbitrer@ffr.fr. Mais on reçoit des dizaines de candidatures de toute la France.
Mais tant mieux.
On est ultra médiatisé. Et je suis pas sûr, et je connais pas mes amis du foot, je suis pas sûr qu'ils aient autant d'engouement pour devenir arbitre au football. Je suis pas sûr. Parce que la médiatisation, tu vois, c'est comme humanisation, j'ai du mal à le dire. La médiatisation est énorme. Et le temps caméra passé sur un arbitre, notamment dans un appel vidéo, est aussi énorme. Donc forcément, cette image y est. Je veux dire, et celui qui dit non, ça ne m'intéresse absolument pas, on ne passe pas notre journée à se regarder à la vidéo. Ça compte forcément. Et l'image compte, quoi. Je veux dire, on ne peut pas arriver. Physiquement, vous l'avez, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Raph, mais les joueurs se sont affûtés, les arbitres, les maillots sont devenus plus petits.
Ah si, je l'ai dit. Mais d'ailleurs c'est quoi la préparation d'avant-saison? Parce que nous, on a chargé.
Au niveau de cette ligne, c'est valable chez les arbitres aussi. J'ai beaucoup de respect pour mes anciens arbitres, mes pères arbitres, mais certains n'ont pas le physique de ceux d'aujourd'hui. La préparation physique, pour répondre à ta question, Raph, est très intense chez les arbitres. On est très contrôlé physiquement, mais en même temps, c'est pas anormal. Hein, à partir du moment où moi je suis semi-professionnel, donc ça veut dire que je suis rémunéré pour aller m'entraîner. J'ai cette chance. Faut pas oublier que la majorité des arbitres de top 14 ne sont pas professionnels. Et en Pro D2, encore moins. Il y a zéro.
Je vais pas dire que c'est pas un scandale, mais. Quand même, on demande chaque week-end aux arbitres d'être le plus pointilleux possible, le plus professionnel possible. Et les mecs, vous êtes semi-professionnels, voire encore amateurs. C'est quand même, Alors là, je sais que tu as beaucoup de respect pour ton patron à la Fédé, mais il y a un moment où il va falloir se foutre à table et puis être vraiment, vraiment professionnel. Il y a de l'oseille dans le rugby. On a eu encore les droits télé qui, pendant 4 ans, ont encore augmenté de 10 ou 15%. Je ne sais pas, je m'enflamme peut-être. Mais j'ai d'ailleurs envie de m'enflammer parce que je trouve ça que c'est un scandale que des joueurs de Pro D2, entre Pro D2 et Top 14, on va dire que ça touche entre 3000 et 30, 40, 50, et que les arbitres soient encore semi-professionnels et qu'en plus, derrière, ce soient les premiers qui soient voilà, en première ligne pour se faire tirer dessus dès qu'il y a une erreur. C'est quand même, je ne sais pas, il y a.
Raph, attention, il y a quand même il y a quelques arbitres, justement, ça, c'est un très bon enchaînement, on voulait parler un peu du statut de l'arbitre, Laurent. Toi, tu l'as dit, t'es semi-professionnel, mais il y a quand même quelques arbitres aujourd'hui qui sont professionnels. Bon, il y avait Jérôme Garcès hein, qui a quand même arbitré la finale de la Coupe du Monde au Japon. Non, mais il y a quand même quelques arbitres professionnels. Et justement, Laurent, cette question, on a quand même le sentiment qu'avec ce changement de statut, alors oui, aujourd'hui, c'est peut-être encore insuffisant parce qu'il faudrait peut-être encore plus d'arbitres ayant ce statut et professionnel et semi-professionnel. Mais on a quand même le sentiment que cette évolution a permis une très significative amélioration de l'arbitrage français. Aujourd'hui, l'arbitrage français est reconnu comme le meilleur au monde.
Et il y a encore des semi-pros. C'est ça que je ne comprends pas. C'est comme le statut de la femme dans le rugby. Il y a un moment où il faut… Alors, je sais que ça prend du temps pour que ça évolue. On parle des arbitres.
Il y a des choix qui sont faits aussi, hein. Est-ce que Laurent, par exemple, toi, t'aurais aimé être professionnel à temps plein ? On sait que tu as diverses activités, on va en parler après. Est-ce que être totalement immergé à 100% dans le rugby pour un arbitre, est-ce que c'est aussi une bonne idée ou est-ce qu'on a besoin aussi de cet échappatoire d'une activité professionnelle annexe ?
Moi, mon parcours dans l'arbitrage, je n'ai pas été international comme Jérôme Garcès, Pascal Gahuzet, Romain Poit, Mathieu Reynal et Alexandre Ruiz. Qui ont, eux, des plannings quand ils ne sont plus en top 14, sont en Coupe d'Europe. Et quand ils ne sont pas en Coupe d'Europe, ils sont à l'étranger pendant 3 semaines, 1 mois en Afrique du Sud, etc., etc. Et avec le Covid, c'est encore pire parce que quand ils ont un match à faire, ils partent des jours avant et ils rentrent des jours après. Bon, bref. Mon emploi du temps arbitrage avec un mi-temps est suffisant. Parce que tout ce que j'ai, vidéo, entraînement physique, et toute l'activité dont j'ai le temps de travail dont j'ai besoin pour l'arbitrage, en mi-temps me suffit. Je n'aurais pas souhaité devenir professionnel. Parce que il y a aussi, j'ai 43 ans, dans un an et demi, j'ai fini l'arbitrage de haut niveau, parce que ça s'arrête à 45 ans. Et moi, pendant ce temps-là, ça me permet effectivement d'avoir d'autres activités et d'avoir un roulement permanent et de garder un pied dans la… Pardon, je vais mettre des guillemets, dans la vraie vie. Parce que le sport est quand même le sport en général, foot, rugby ou peu importe, reste quand même des mondes à part, des mondes de privilégiés. Il ne faut pas oublier que pour gagner ce que je gagne au niveau de l'arbitrage ou mes collègues professionnels, il faut avoir des fois des niveaux d'études très élevés pour atteindre ces mêmes niveaux de salaire. Je rappelle juste, et ça c'est en toute humilité que je dis, qu'on n'est que arbitre d'un sport. Et même si ça a une importance extrême sur certaines rencontres, et je le comprends, il faut relativiser notre rôle quand même et notre statut social. Quoi. Donc, je comprends, Raphaël, quand tu dis qu'il faudrait que tout le monde soit professionnel, ça coûte beaucoup d'argent, un salarié, même si, je ne sais pas s'il y a de l'argent, je pense que la fédération…
J'entends, mais tu me parles, je suis d'accord avec toi, mais tu me parles d'humilité, mais il y a un moment où vous êtes acteurs principaux, on parle toujours du… de l'arbitre, vous êtes central, vous avez pris une place aussi prédominante aujourd'hui, même en termes d'image. Donc, je comprends le côté humilité. C'est comme quand un mec par 3 essais, il se cache derrière l'équipe en disant oui, mais c'est grâce à l'équipe. Non, ben non. Il y a un moment où. Ce discours-là, je l'entends, c'est le discours rugby. J'avais le même quand j'étais joueur. Tu dis toujours, ben ouais, c'est grâce aux avants. Ben non, j'avais fait 100 mètres et j'ai marqué un essai de 100 mètres. Voilà. Mais j'entends ce que vous dites. Mais il y a un moment, il faut quand même. Se rendre compte de cette place. Oui, les salaires ont évolué, bien sûr, mais pour les joueurs aussi, ils ne s'en cachent pas, certains, de toucher 30, 40, voilà. Mais voilà, les arbitres, aujourd'hui, c'est normal d'être, selon moi, rémunérés. Et c'est très bien ce que tu dis, de garder un pied dans la réalité et d'être semi-pro, tant mieux. Mais je ne sais pas, il y a eu quand même ce débat pendant des années de la place de l'arbitre. Aujourd'hui, il est essentiel. Donc pourquoi, s'il est essentiel, il aurait un statut différent qu'un joueur de rugby ? C'est ça que je veux dire, en fait.
Je rebondis sur Bernard Laporte. Il a une vraie volonté politique et depuis son premier mandat pour faire grimper les arbitres au niveau salarial. Il l'a toujours dit, il l'a toujours affiché.
Mais je ne demande personne du doigt en disant ça. Hein. C'est juste
comme toute évolution. Et je sais qu'il y a cette volonté-là de lui et son comité directeur de faire progresser. Mais il se confronte aussi à des volontés politiques des présidents de club, parce que quand tu écoutes les présidents de club, ils veulent tous que les arbitres soient professionnels, etc. etc., etc. Mmh. Mais au moment de voter les enveloppes, hop, il y a moins de véhémence.
Il n'y a plus personne.
Il y a moins de véhémence, on va dire. Il y a moins de véhémence. Et je comprends les clubs aussi, parce qu'ils ont d'autres soucis très importants. Et moi, des fois, j'ai l'impression que l'arbitre, on s'y intéresse quand il arrive une heure et demie avant, et voilà, hein, et pendant le match, et puis quand il a fini le match, après, tu vois, je veux dire, bon, ok, je suis proche d'un club, donc je sais comment ça se passe, je sais comment ça se passe aux arbitres, mais bon, on connaît pas 2 heures avant, donc si tu veux.
On tourne un peu autour du pot, mais je vais te poser la question. Franchement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de la rémunération d'un arbitre professionnel ou semi-professionnel? C'est parce que, alors, je ne sais pas si c'est tabou ou pas, mais effectivement, Raphaël mettait ça en perspective avec les rémunérations des joueurs. J'imagine qu'on est très loin, évidemment, des rémunérations. Tu vois, moi aussi, je bug, Raph. On est très loin des rémunérations des joueurs. Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une responsabilité immense. Je discutais avec Xavier Pemeja, le manager de Nevers, qui disait à juste titre qu'il était archi favorable à la vidéo parce que aujourd'hui la décision d'un arbitre peut avoir des conséquences énormes sur l'aspect économique d'un club. Ça peut être une descente, ça peut être un maintien, et que ça peut être énormissime. Donc vous avez une énorme pression sur les épaules chaque week-end, et encore plus quand arrive le printemps avec la fin de la saison qui approche. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si tu as le sentiment que vos rémunérations sont là à la hauteur finalement de vos responsabilités?
C'est une question. Alors, peu importe ce que je réponds, je vais me faire défoncer. Non, c'est pas vrai. je prends que Laurent Cardona. Je parle pas pour mes collègues. Voilà, je prends que Laurent Cardona. Moi, j'estime que nos rémunérations sont à la hauteur des responsabilités que nous prenons, parce que nous avons, pour les pros et les semi-pros, une rémunération fixe par mois. Que je rappelle que l'année dernière, quand on est passé Covid, tout s'est arrêté, les arbitres ont été rémunérés de leur salaire fixe, malgré tout, jusqu'à que ça reprenne. La fédération, alors on a été en chômage partiel, mais la fédération a compensé. Bon, bref. Tout ça pour dire que je pense, mais que Laurent Cardona pense, pas la communauté pense, Laurent Cardona pense que c'est, pour moi, oui, suffisant par rapport à… Encore une fois, je vais me comparer à quelqu'un de normal, à un docteur dans la vie active. Je vais me comparer à des gens qui ont fait des études. Voilà. Les niveaux de salaire que nous touchons, pour moi, sont raisonnables et compensent notre activité de travail et notre responsabilité. Oui, on en est conscient, Arnaud, des responsabilités énormes qu'on en a. Moi, je suis proche du club d'Angoulême, du SA15.
Tu as été salarié d'Angoulême pendant quelques années.
J'ai été salarié pendant 3 ans au niveau du partenariat. Et je sais ce que les dirigeants vivent actuellement. Je sais le drame économique que c'est pour la ville, pour le département, etc., etc. Et voilà. Et mes collègues arbitres qui viennent arbitrer Angoulême, etc., ont un certain détachement de ça. Ils prennent le match en responsabilité. Ils savent, ils connaissent les enjeux. Mais heureusement qu'ils se détachent un petit peu de tout ça. Ils n'ont pas à subir la pression des dirigeants. Ils n'ont pas à subir. Voilà, chacun encore une fois à sa habilité. Nous, ce qu'on demande aux arbitres, c'est d'être le plus équitable possible, cohérent possible. Et après, le match passe comme il se passe. Et il y aura toujours un gagnant et un perdant, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, d'ailleurs, c'est la beauté de notre sport.
C'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un arbitre donc semi-professionnel par rapport à la, je dirais, combien de temps tu t'entraînes par semaine, combien de temps tu passes à la vidéo? Et on sait que, on en parle souvent dans Poulain Raffut, il y a aussi le double projet, parce que vous êtes aussi concerné. Depuis 19 ans, tu es arbitre, depuis 24… Enfin, donc, il y a ce double projet aussi d'avoir une activité aussi à côté. Donc, je te sais dans l'immobilier, parce que je te suis sur les réseaux sociaux avec cette aura que tu as, je te suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi, une semaine type entre la préparation physique, la vidéo, du match analysé, des équipes aussi à analyser, donc les équipes que tu dois connaître aussi le week-end, et puis ce travail aussi dans l'immobilier aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça?
Ouais, écoute, juste avant de commencer notre interview, j'étais sur le match que j'arbitre ce week-end qui arrive. Je fais Agen-Bordeaux samedi. Donc, j'étais en train d'analyser effectivement plusieurs phases de jeu des deux équipes. La semaine type d'un arbitre, quand il arbitre le week-end, avant le lundi soir, il faut qu'il ait rendu ce qu'on appelle son feedback, c'est-à-dire qu'il a analysé lui-même sa propre performance, dis donc. Il s'auto-analyse, ce qui est bon, de savoir si il est planté, pas planté. Il rend ça à la Fédération française de rugby. Systématiquement, il y a un rapport. Tous les arbitres sont supervisés à tous les matchs. Il n'y a pas un arbitre qui passe à travers la passoire sans être vu s'il s'est planté ou s'il a fait une bonne prestation. Entraînement physique, donc quasiment toute la semaine, un peu comme un joueur, avec d'autres intensités qu'un joueur, et salle de sport. Moi, si c'est Laurent Cardona, c'est une grosse séance de physique le mardi. Ma grosse séance, c'est vraiment le mardi. Salle de sport mercredi et jeudi, et séance de vitesse explosivité, un peu comme les joueurs, hein, la veille de mon match, donc souvent le vendredi. Et après, on passe entre l'analyse du match qui a été fait et l'analyse du match qui arrive, entre 6 et 8 heures de vidéo dans la semaine. Parce que quelques jours avant la rencontre, on a un brief avec notre équipe, c'est-à-dire nos juges de touche et notre vidéo, où on fait une petite visio et on discute, voilà, on met en lumière 2-3 phases sur le comportement des équipes, sans non plus faire des focus sur des joueurs ou plus des stratégies de jeu qu'on met en place les équipes, plus que sur des joueurs. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour viser un pilier qui a une redondance de comportement. Et puis, quand tu arrives au moment de la feuille de match, il n'est même pas sur la feuille de match. Quoi. Donc, si tu veux, bon, on s'évite ce genre de choses et on va parler plus de stratégie parce que certaines équipes ont une manière de fonctionner en défense ou en attaque. Et c'est plus là-dessus qu'on va regarder pour ne pas être trop surpris. Parce que plus on aura anticipé, moins on sera surpris et moins on sera dans la réaction quand on aura besoin de décider. Mais bon, malgré toute cette préparation, on a du mal à tout anticiper quand même, heureusement d'ailleurs. C'est la beauté, encore une fois, de notre sport.
Et au milieu de toute cette activité, tu gères aussi donc deux agences immobilières. Tu as créé, alors c'est en lien aussi avec ton activité d'arbitre, j'imagine, une activité autour de la nutrition. J'imagine qu'un arbitre, Raph le disait tout à l'heure, les arbitres bedonnants des années 70-80 ont un peu laissé place à des athlètes de haut niveau. Tout ça, c'est en lien. Comment ça s'organise? Comment, voilà, est-ce que tu arrives à développer ces activités annexes également?
Ouais, bah écoute, avec mon frère Jonathan, on a créé une enseigne qui s'appelle JL Bro Nutrition. C'est assez facile, hein, Jonathan, Laurent, Bro de Brother et Nutrition. Et effectivement, alors mon frère est un coach diplômé, coach sportif diplômé. Donc, entre son expérience et son expérience métier et moi qui fais beaucoup de sport avec l'arbitrage et en relation avec de grands joueurs quand même de rugby où on les voit s'entraîner et clairement le complément alimentaire fait partie intégrante d'un sportif de haut niveau, que ce soit rugby, foot, triathlon ou autre. Et puis ce constat où en France, c'est un petit peu difficile, si tu ne passes pas par Internet, de trouver du vrai conseil dans la nutrition et le complément alimentaire. Donc voilà cette idée de créer JL Bro Nutrition. Pour répondre à ta question principale, c'est une organisation. Moi, dans mon agenda, j'ai un agenda ultra calé. Il est vraiment noté mes plages pour l'arbitrage, il est vraiment noté mes plages pour JL Bro Nutrition dans le développement, etc., etc. Donc je séquence ma semaine entre mes différentes activités. Alors pour les agences immobilières, là j'ai mis en place des responsables d'agence, c'est-à-dire que à Angoulême j'ai une responsable d'agence et à Sainte j'ai aussi une responsable d'agence. Donc, au final, si tu veux, cette capacité à déléguer à des gens compétents, ce qui me permet de moi de récupérer du temps de travail pour pouvoir essayer de bien m'organiser. Maintenant, ma journée commence à 6 h du matin et finit souvent à 21 ou 22 h.
On va revenir un petit peu sur le côté médiatique. Est-ce qu'en tant qu'arbitre, tu as un devoir de réserve? Je te pose la question car l'an passé, durant le premier confinement, tu t'es… Je savais bien qu'on allait y venir. Tu t'es amusé à faire un sketch diffusé sur les réseaux sociaux. Où là, en termes d'acting, alors là, c'est ce moment où tu brocardais les commentaires d'Eric Bail et Marc Evremont que tu avais requalifié. Eric, je fais des vannes à tout prix Bail. Et Marc, j'ai failli être champion du monde d'Evremont. Pourquoi ce genre de truc? Est-ce que ça t'a posé quelques petits soucis en suivant? Comment ça a été pris par le monde rugbystico-médiatico-social?
Bon, c'est vrai que des fois, je fais un petit peu des trucs incontrôlables. Et je me dis des fois, je me dis, Laurent, c'est limite quand même, t'es un petit peu barge. Et effectivement, alors moi, si tu veux, le rugby, Raph, alors peut-être pas Arnaud, mais Raph, on a connu les 6 heures de bus retour avec un
QSO. Merci, bravo.
un litre de jaune à l'intérieur avec 4 litres d'eau, pas frais, tu vois. Et puis, tu descendais du bus 6 heures plus tard, tu cherchais ta voiture pendant une heure, quoi. Et moi, j'ai connu ce rugby-là où il y avait toujours un mec pour faire des vannes, il y avait toujours des conneries dites parce que 6 heures, c'est long dans un bus, les gars. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas.
Ce dont tu parles, en fait, moi, le grand problème, c'est ce dont tu parles. Je l'ai vécu, moi, au Stade français, d'où la carrière que j'ai fait. Voilà, c'est cadeau.
Voilà, voilà. Donc, si tu veux, tous les arbitres de rugby sont originaires de ça à la base.
Mmh, bien sûr.
On a été des joueurs de rugby et notre genèse fait que quand on sort du match, mes principaux amis dans le rugby, ce sont ceux sur lesquels je me suis le plus affronté sur un terrain. Et je crois qu'on a tous des amis comme ça où on s'est mis dans la tête pendant 80 minutes et on se remettait dans la tête après en se voyant. Et puis au final, on finissait avec des brins qui n'en finissaient plus. Donc, je suis issu de ça. Et c'est pas parce que je suis devenu arbitre de haut niveau que ça a disparu. Donc, j'ai toujours cette très connerie, pour ceux qui me connaissent, derrière. Alors, quand je regarde les matchs de rugby, parce que moi aussi, je regarde les matchs de rugby dans mon canapé avec un plaid et un café, du coup, il y a des choses qui sortent un peu de caricature, que je trouve ça assez drôle. Et le confinement nous a fait tous un petit peu péter les plombs. Hein. Ça, je crois que j'invente rien. Aujourd'hui, on a absorbé un peu tout ça. On a presque l'impression que c'est normal, alors que ce n'est pas normal du tout. Mais bon, bref. Et à l'époque, effectivement, l'isolement tournait un petit peu. Et avec ma chérie, Adeline, on est parti n'importe où. Alors, je la fatigue quand elle me dit, je me lève le matin, j'ai une idée, on va faire une connerie, viens. Et donc, ce sketch-là, ce petit film-là a fait beaucoup parler, mais il y en a eu d'autres. Et voilà. Et Eric Bale me fait beaucoup, beaucoup rire au-delà du professionnalisme qu'il a, parce que c'est quand même lui qui a mis le rugby en avant sur Canal+ depuis plus de 20 ans. Donc, merci à lui. J'ai beaucoup de respect. Et Marc Lièvremont, je lui ai quand même envoyé la vidéo avant de la diffuser. Et je lui ai dit, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Marc, j'ai beaucoup de respect pour toi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait, etc. Je fais une parenthèse avec toi parce que ça m'a fait rire. Si tu trouves que c'est vexant ou que tu trouves que je vais trop loin, tu me le dis, je change. Je change, etc., etc. Il m'a répondu, alors, vas-y, sans problème, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, voilà.
C'est génial.
Vive le rugby, quoi.
Mais je vais raconter une anecdote très très rapide, mais par contre la personne l'avait assez mal prise et je m'en excuse encore aujourd'hui, même si j'ai pas à m'excuser de l'humour, mais j'essaye d'endormir mon gamin, il y a mon beau-père qui est en train de s'endormir devant le top 14, mon fils gueule depuis une heure, Léo, donc je tangue, il gueule, et là je me pose devant le match et c'est Pierre Berbizier qui commente. Et là, mon gamin s'endort en 2 minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai marqué un tweet en disant « Mon gamin ne s'est pas endormi pendant 2 heures, je lui ai mis du Pierre Berbizier, il s'est endormi en 2 minutes. » Le problème, c'est que le tweet a été repris dans le Midi Olympique et que la semaine d'après, dans les tontons flanqueurs, on recevait qui? Pierre Berbizier. Et au moment où je sors de l'ascenseur pour lui tendre la main, il me dit je ne te parle plus, Raphaël, je ne te parle pas. Vexé, tu vois, vexé comme un pou, pas dit bonjour. Pendant l'émission, pas un mot, on n'a pas échangé, puis à la fin, pas dit au revoir, quoi. Et c'est vrai que. Voilà, il n'a pas trop accepté le côté deuxième, un peu troisième degré, mais je n'ai même pas envie de me justifier un petit peu de l'humour. Comme tu dis, il faut garder cette connerie. Je pense que l'allégorie du bus, tu n'étais pas au début du bus, introverti, à fermer ta gueule et à penser à ton match. Tu étais au fond du bus, à mettre des grandes nuquettes et à raconter des conneries. On est d'accord.
C'est ça, le débrief.
Bon, alors moi, je voudrais finir quand même sur… Pardon, vas-y Laurent, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, non, j'ai le débrief d'après-match, il se faisait un peu comme ça. Et pour répondre, est-ce que j'étais ennuyé après la vidéo? Je n'ai pas répondu à ta question. Quelques-uns n'ont pas trouvé ça très drôle ou ont trouvé que je nuisais à l'arbitrage en général. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça.
Moi, je trouve que ça humanise les arbitres. Hein. Je ne vois pas pourquoi les arbitres n'auraient pas le droit d'être drôles. Et je trouve ça plutôt sympa. Je voudrais conclure, moi, Laurent, sur un sujet quand même qui est très sérieux. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, vous avez des responsabilités énormes. Question directe, est-ce qu'un jour, un club, un président… une personnalité annexe ont pu chercher à acheter une de tes décisions ou à t'influencer sur le sort d'un match?
Eh bien, ça n'est jamais arrivé. Mais…
Tu le regrettes, on dirait.
Il a envie de sortir un truc croussillant. J'étais là, putain, j'y vais. Ouais. Vas-y.
Mais il y a des quotas minimum. Hein. Il m'envoie un petit message à mon adresse personnelle. On s'en rend. Très sérieusement, parce que c'est une question quand même plutôt très sérieuse. Non. Ni de près, ni de loin. Quand j'étais jeune, c'est une toute anecdote quand même, très rapide. Quand j'étais jeune, un président de club de 3e division fédérale, je tairai le nom, je me suis retrouvé au repas d'avant-match. Alors, le repas d'avant-match, c'est très… Normalement, il y a les dirigeants du club adverse, il y a un peu de monde, quoi. Je veux dire, du monde qui fait que tu ne peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvé à l'étage du clubhouse avec lui et moi et sa femme qui nous servait. Et là, pendant une heure, j'ai eu le droit à « on doit gagner absolument », et nanani, et nanana. Et j'avais trouvé ça énorme. J'avais 25 ans, j'avais trouvé ça énorme. Voilà. C'était la seule fois où un président a vraiment essayé d'influencer à tout prix le match, etc., etc. Et c'est difficile de s'échapper, parce que je pensais que j'arrivais sur un repas d'avant-match tout à fait classique, et je suis tombé là, comme ça. J'ai trouvé ça énorme. Mais voilà, non, il s'est jamais aucunement, même ni de près, ni de loin, ni en insinuation, ni rien du tout. C'est un sujet que je n'ai jamais vécu, moi personnellement, et je ne pense pas que ça existe dans notre sport, en tout cas.
Mais Thibaut, mais tant mieux. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que tu l'as mentionné, mais en général, l'arbitre vient et mange en général avec les deux présidents, en tout cas, oui. Les deux staffs et les deux présidents à la même table. Et voilà, c'est pas… En général, ça se passe comme ça aussi dans le monde amateur et ça se passe encore comme ça. Pour conclure, Laurent, je voulais juste savoir, tu l'as dit, tu as 43 ans, c'est quoi l'avenir de Laurent Cardona? Est-ce qu'il y a tu l'as dit, jusqu'à 45 ans, tu seras arbitre. Est-ce qu'après, il y a une volonté de continuer à travailler dans la sensibilisation justement au monde de l'arbitrage pour donner envie à des jeunes de prendre la relève? Tu l'as dit qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, ta volonté, c'est quand même de garder un pied dans le rugby, j'imagine.
Bah, je crois que le rugby m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma carrière. J'ai fait des choses extraordinaires grâce au rugby. J'ai fait le tour du monde grâce au rugby. J'ai vécu des moments intenses. Et il me reste encore un petit peu, donc j'espère encore vivre des moments intenses dans les quelques années qui me restent. Et après, je crois que c'est de notre devoir de rendre au rugby ce qu'il nous a donné. Il ne faut pas prendre comme ça et puis dire merci, au revoir, à bientôt, c'était sympa. Donc ouais, je ne sais pas du tout quel rôle, je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie, si tu veux, d'arrêter. Donc du coup, j'ai du mal à me projeter à l'après-carrière, mais forcément, il y a un moment donné… Il faut quand même rendre ce que le rugby a donné. C'est quand même normal, quoi. Je veux dire, quand on a été joueur, on aime bien rendre. Et quand on est arbitre, on aime bien rendre aussi aux futures générations. Et essayer de faire en sorte que ce que j'ai vécu moi, ils vont le vivre aussi, parce qu'on ne peut pas l'éviter, mais peut-être avec plus de clés et d'armes que ce que j'avais moi à l'époque.
Et justement, sache en tout cas qu'on parle souvent de la petite mort des sportifs et des sportives, bien sûr, tu vois, pour rentrer dans cette vie normale, parce que tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, c'est une vie extraordinaire qui sort de l'ordinaire d'être arbitre professionnel ou semi-pro ou d'être sportif professionnel. Dis-toi que si un jour ça flanche, tu as mon numéro de téléphone et que je serai à l'écoute.
Avec plaisir.
Non, parce que non, mais en plus… Mais c'est des sujets en fait qu'on n'aborde pas ou peu, en tout cas, et que moi je veux mettre les pieds dans le plat, et que c'est important, et je le fais depuis des années avec le bouquin. Je pense que c'est de donner la parole justement, et t'es quelqu'un de médiatique en plus qui a une aura et qui parle bien et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc si ces moments difficiles d'arriver à les exprimer, le moment venu, médiatiquement ou même personnellement, je pense que c'est important aussi d'ouvrir le débat sur cette après-carrière, parce qu'à 45 ans, on est dans la fleur de l'âge, comme à 35 pour un sportif professionnel, et il faut se renouveler. Donc.
D'où le double projet. Le double projet, moi, le statut de semi-pro m'intéresse énormément parce que je peux construire mon après-carrière. C'est-à-dire que moi, le jour où les lumières du stade vont s'éteindre réellement sur mon arbitrage, je tombe pas dans un trou, quoi. Je sais déjà exactement professionnellement ce que je peux faire. Et si je n'avais plus du tout de l'arbitrage, si je ne faisais plus rien dans l'arbitrage, j'ai quand même mes projets professionnels qui courent. Donc, JL Bro Nutrition, c'est deux prochaines boutiques, une à Bègles et à Mérignac, là, dans les mois qui arrivent. Donc, du job, quoi.
Bon, donc, tu n'auras peut-être pas besoin d'appeler le docteur Raphaël Poulain, Laurent, tant mieux pour toi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé autant de temps. J'ai trouvé l'échange riche, intéressant. Je pense que tous les jeunes qui vont écouter ce podcast vont probablement apprécier le côté humain de l'arbitre, parce que c'est aussi bien d'aller voir ce qu'il y a derrière ce vilain maillot vert. Donc, vraiment, je trouve, merci Laurent d'humaniser cette fonction. C'est bien aussi que les arbitres se montrent sous un autre jour, et peut-être que ça permettra à l'avenir d'éviter parfois ce flux de, de, j'allais dire de haine, peut-être pas de haine, mais en tout cas d'injures qu'on peut entendre parfois sur les bords du terrain ou lire sur les réseaux sociaux. Raph, un petit mot peut-être pour conclure.
Non, mais écoute, je pense que tu as tout dit, on a besoin, et je pense que c'est mon cheval de bataille depuis quelques années maintenant dans cette émission, c'est de donner la parole justement aux hommes et aux femmes derrière le maillot et derrière le statut social pour essayer de casser un peu les clichés du rugbyman bourrin ou de la femme qui serait trop masculine. Voilà, on l'a découvert à travers des portraits féminins super, et on le voit aujourd'hui à travers Laurent, que je connais un petit peu, et on a eu l'occasion d'échanger, on n'a pas eu d'altercation, mais lors d'un match où j'avais vu quelques, je m'étais permis de commenter, mais voilà, et je m'en excuse parce que c'est vrai que je n'avais pas le recul. Non. Mais ça permet aussi de comprendre un peu ce que peut vivre un arbitre, l'homme derrière le sportif, parce qu'il y a une pression médiatique, il y a une pression des supporters, et de savoir de l'intérieur comment les gens vivent leur sport et vivent leur passion, je trouve ça génial. Donc merci beaucoup Laurent, en tout cas, de ta sincérité. Je suis pas du tout étonné. Et la prochaine. Et juste une dernière question d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un retour du public dans les stades? Est-ce qu'il y a possibilité pour toi d'arbitrer les phases finales? Comment ça se passe pour toi dans les prochaines semaines?
Alors, je vais répondre à la première. Oui, j'ai hâte que le public revienne dans les stades. C'est vraiment un truc. Je gueuler, quoi. Hein, revenez dans les stades et gueuler, parce que vous êtes là pour ça, les supporters. Après, je me souhaite de faire les meilleurs matchs possibles les uns après les autres. Vraiment, c'est ma volonté pure et dure. J'ai Agen-Bordeaux samedi. Mon objectif, c'est d'être le meilleur possible. Et en tout cas, que ça se passe très, très bien. Et voilà, je vais prendre les matchs les uns après les autres. Je fais en sorte que ça se passe bien les uns après les autres. Et après, derrière, il y a un comité de sélection, c'est à lui de décider, et je lui laisse, c'est lui qui a le plein pouvoir de savoir ce que doivent faire les arbitres en fin de saison en termes de phase finale et de moments très heureux. Parce que c'est des moments très heureux aussi pour les arbitres de faire des phases finales.
Ben écoute, on te le souhaite. Arnaud, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
Même endroit, même heure.
Et d'ici là, moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end rugby. Comme à l'accoutumée, je vais vous dire, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, il fait beau. Passez un bon moment, Laurent, à très très bientôt. Et nous, on se retrouve dans Poulain la Flûte la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous, ciao.